Les affaires du sport. Les affaires du sport avec Ray Lalonde.
Bon dimanche matin, Ray Lalonde.
Salut, Paul.
Un bon début de saison pour l'équipe qu'on désigne maintenant sous le titre de CF Montréal. L'Impact, si on veut, qui a gagné 4-2 contre ses grands rivaux de Toronto.
Oui, c'est un très bon début, puis c'est encourageant parce qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles. Il n'y a pas eu beaucoup de buzz, Paul, par rapport à cette équipe-là depuis quelques semaines. Depuis le départ de Thierry Henry, encore une fois, l'incertitude de la pandémie qui fait en sorte que l'équipe se retrouve à Fort Lauderdale pour leur début de saison à domicile, dans le stade de l'Inter Miami. On appelle ça le Drive Pink Stadium. Toronto FC, eux, sont à Orlando. Vancouver est à Salt Lake City. Les trois équipes canadiennes sont forcées de réaménager encore une fois. Ce qui rend la chose très dure, Paul, pour la connexion avec les partisans. Je regarde toujours l'aspect commercial, marketing, business. Tu sais, ça fait plus d'un an qu'on n'a pas eu un match de l'Impact du CF Montréal à Montréal, au Stade Saputo. C'est dur parce que ça crée une distanciation, un éloignement, peut-être un peu un désintéressement aussi parce que l'équipe n'est pas près de nous physiquement. Alors, on espère que ça va se corriger au cours de la saison. Mais bon début. C'était la 26e saison qui commençait, Paul. Puis ce que je veux souligner aujourd'hui, c'est est-ce que la MLS est vraiment considérée comme une ligue majeure, la cinquième, avec les quatre grands? Puis c'est ça la question qui les embête toujours, parce que est-ce qu'on les inclut quand on fait une conversation au sujet des grandes ligues en Amérique du Nord? Puis c'est toujours une question, c'est quoi l'impact, c'est quoi l'effectif? Qu'est-ce que ça a comme importance dans notre culture sportive à tous les jours, la MLS? Fait que depuis quelques années, on a vu beaucoup de succès au niveau de l'expansion. Plusieurs franchises se sont rajoutées. Cette année, c'est Austin au Texas qui se joint à la MLS. Puis il y a deux autres équipes qui attendent, Charlotte et Saint-Louis. Puis une, Sacramento, qui est en péril un peu à cause du propriétaire. Mais on va arriver, là, Paul, à 30 équipes.
Ouais.
Comme une ligue majeure. Puis les coûts des franchises, si tu regardes juste Toronto, avait payé 10 millions de dollars en 2007. Puis Charlotte a payé 325 millions l'an dernier.
Mais tu vois, t'as mentionné des villes comme Charlotte. Il y a 3 ans, je suis passé par Portland, dans l'Oregon.
Mm-hmm.
Portland ne fait pas partie des 4 grandes ligues. Il n'y a pas d'équipe de hockey, de baseball, de football. Je peux te dire une affaire, leur équipe de foot, de soccer, c'est important. C'est la même chose d'ailleurs à un gros marché de sport, Seattle, qui est représenté dans toutes les ligues majeures. Mais l'équipe de la MLS à Seattle, c'est populaire, c'est
ben
très
oui,
important.
Tu as raison. Les Sounders à Seattle, le United de Atlanta, Portland, Paul, une petite...
Ben, ils ont la NBA, évidemment.
Ils ont une équipe de la NBA,
oui,
mais qui est cachée. Tu as raison.
C'est
une ville qui cherche une équipe de baseball, en passant. Alors, tu vois que Portland, c'est comme une ville qui est en croissance rapide, qui veut des sports majeurs. Mais tout ça pour dire que la MLS, le plus gros défi, Paul... C'est moins une question d'argent, c'est plus une question d'audience télé. La moyenne des matchs en 2019 pour la MLS en saison régulière avec les cotes d'écoute aux États-Unis sur ESPN, c'était 260 000 personnes. Juste pour vous donner une comparaison, NBC attirait en moyenne en 2019 450 000 pour la Ligue nationale de hockey. Fait que ceux qui prétendent que le hockey, c'est moins populaire, oui, c'est loin de la NFL à 15,4 millions. Mais c'est 2 fois plus que la MLS.
Ouais.
Alors, la MLS doit travailler pour créer des vedettes locales, pour se connecter davantage dans leur communauté, pour que ça devienne quelque chose qui rentre un peu dans la rotation des sports qui roulent pendant 12 mois et de trouver sa place. Et c'est pas facile parce que c'est congestionné, l'industrie du sport aux États-Unis. Alors, ça va être un gros défi pour 2021 pour la MLS.
Alors, plusieurs grandes vedettes du sport, des gens qui ont fait beaucoup d'argent, deviennent des investisseurs, des grands noms d'ailleurs. Et parmi ces grands noms, Alex Rodriguez, qui était au cœur de l'actualité, il faut le dire, Ray, cette semaine, puisque J-Lo, Jennifer Lopez et lui ont officialisé leur séparation.
Bien. Puisque Thérèse est avec nous, ça nous permet de parler de divertissement un petit peu. J-Lo n'est plus avec Alex
Rodriguez. C'est elle qui l'a annoncé, en tout cas.
Exact. Alors, Alex Rodriguez, qu'on appelle A-Rod, il avait raté son coup en novembre dernier dans sa tentative d'obtenir les Mets de New York. Un gros morceau, une grosse pointure. Il a perdu cette offre d'achat-là. Là, il revient de plus belle avec les Timberwolves du Minnesota. Dans la NBA, les Timberwolves piétinent au bas-fond depuis des années. Ils ont fait les séries une fois en 16 ans. Ce n'est pas une équipe qui vaut beaucoup et qui gagne beaucoup. Alors lui, cette semaine, a présenté une offre et il y a 30 jours pour négocier exclusivement avec Glenn Taylor, le propriétaire. Paul, c'est une équipe qui, même si elle est une des pires de la NBA, ça vaut quand même 1,5 milliard de dollars US. Alors, ça va être une transaction qui va être très coûteuse. Mais Rodriguez veut rentrer comme propriétaire d'équipe. Puis ce qui m'amène à parler de plusieurs athlètes. Cette semaine, Dwayne Wade, que vous connaissez un peu, qui a joué pour le Heat de Miami, il est devenu partenaire du Jazz de Utah de la NBA. Mm. Donc, quand je dis partenaire, c'est pas 50%, c'est comme 1 ou 2%. LeBron James a acheté 1% des Red Sox de Boston et 2% de Liverpool FC. Tu vois, c'est des joueurs qui décident de se réinvestir dans le sport, entre autres, et dans des équipes parce qu'ils veulent aussi devenir peut-être comme Michael Jordan, qui lui est propriétaire à 90% des Hornets de Charlotte de la NBA. Mm. C'est une belle opportunité pour des joueurs athlètes de gérer leur propre équipe par la suite. Puis un qui souligne mon intérêt, c'est Kevin Durant. Kevin Durant, qui est le troisième joueur le plus payé de la NBA, Paul, cette semaine, la nouvelle de Coinbase, que vous connaissez, qui est allée sur le marché boursier,
ben oui.
qui est parti là, à jusqu'à 340 $ par action ce matin, une valeur boursière de 86 milliards. Ben, monsieur Kevin Durant a investi dans Coinbase en 2017. Son argent qu'il a investi a tourné 54 fois depuis.
Incroyable.
Alors, ça, c'est ce qu'on appelle être alerte, pas juste dans le sport, mais dans cette fois-ci dans la technologie. Alors, bravo à Kevin Durant.
Mais Jay, tu parlais d'Alex Rodriguez. Je sais qu'Alex Rodriguez et Jennifer Lopez, même s'ils sont séparés, qui restent bons amis, ils font des affaires ensemble. Est-ce qu'elle a, elle, des... Est-ce qu'on sait si elle a investi dans le sport ou... Parce qu'ils ont des liens d'affaires ensemble.
Oui, absolument. Clair. Ils ont plusieurs liens au niveau production, au niveau technologie. Puis c'est une bonne question, Thérèse, parce que souvent, ce que ces individus-là qui ont des bonnes fortunes à un jeune âge, ils investissent un 300 000, un 500 000 ici, un million. C'est pas des grandes sommes, mais c'est dans des start-up.
Mm-hmm.
Parce qu'après ça, ils voient l'opportunité.
Mais évidemment,
de
parce qu'ils achètent bas, oui. Façon de parler.
Oui, et même si c'est quelques pourcentages. Imagine Durant là, qui a
donc.
54 fois son investissement. Fait que s'il avait mis un million, ça aurait valu aujourd'hui 54 millions.
Sauf que lui est embarqué au bon moment. Bon, on dit souvent. Et
toujours
sais,
le timing.
C'est toujours le timing.
Ouais. Là, la question que je me pose, Ray, par rapport aux joueurs qui investissent dans des équipes, c'est quand la dernière fois qu'une franchise sportive a perdu de la valeur?
Ouf.
Pas souvent.
Donc,
non, mais, Martin.
Donc, ils investissent sur quelque chose qui perd jamais de valeur. C'est
ben, écoute, cette année, à cause de la pandémie, il y a quelques franchises qui ont gardé leur valeur. Ils n'ont pas diminué. Imagine, ça s'appelle un investissement difficile. Ça veut dire que ça n'a même pas perdu d'argent. Mais il y en a quand même qui ont livré des croissances de 5, 10, 12 % par année depuis 5-6 ans. Alors, quand je parlais du Toronto FC, tu sais, 10 millions, ça coûtait au départ. Le Toronto FC, aujourd'hui, en vaut 400 millions. Je veux dire, les Yankees de New York, on en a déjà parlé, ça va coûter à M. Steinbrenner autour de 100 millions.
On a qu'à penser à l'idée peut-être d'un club professionnel à Montréal. Combien coûterait une franchise non partagée, là, une nouvelle franchise à Montréal de baseball?
Ben, ça va coûter aux alentours d'à peu près 2 milliards, plus le reste, Paul. Mais, Paul, dans 10 ans, qui dit que cette franchise-là ne vaudra pas 4 milliards de dollars?
Oui, mais il faut tenir.
Ça baisse des fois, ça arrive.
Non, il vient de dire, ça n'a pas baissé, ça reste stable.
Parce que pourquoi ça ne baisse pas, Thérèse? C'est parce qu'il y a une rareté, il n'y en a pas de disponible.
Oui, mais il faut tenir 10 ans. C'est ça le problème.
Ah ben oui.
Faut que tu trouves le... Non, mais regarde, Ray, faut que tu trouves le financement à l'origine et il faut tenir le coup 10 ans pour pouvoir justement encaisser ce.
Oui, mais Paul, j'imagine que si t'es pour rentrer dans cette business-là, puis t'as des milliards à dépenser, c'est parce que t'es probablement capable de durer 10 ans, 15 ans. T'as raison de poser la question.
Oui.
Mais si tu t'en vas jouer dans la cour des grands, sois prêt à te battre avec les grands.
Merci beaucoup, Ray, et bonne semaine.
Bon dimanche tout le monde.